Antoine.
Merci, cher ami.
J'ai pas besoin de présenter le professeur Antoine Fleury, professeur émérite de la faculté des lettres de l'Université de Genève et cheville ouvrière de cette œuvre Opus Magnum, qui est l'édition des documents diplomatiques suisses. Antoine, tu as la parole.
Merci, cher ami. J'ai fait partie aussi de ce comité d'organisation de ce colloque et je dois vous avouer que nous avions tout au départ un grand défi à relever en définissant ce sujet, c'est-à-dire comment pouvait-on apporter quelque chose de neuf aux riches exposés du colloque précédent, pas si ancien, sur Dunant Moigné qui a eu lieu il y a 2 ans. Les exposés que vous avez entendus hier et aujourd'hui ont montré que ce défi a été bien relevé et que ça valait la peine de tenter l'aventure qui, au départ, était prévue plus modeste et, au fond, qu'on a réussi à porter à un niveau que je peux qualifier de scientifique du point de vue de ma méthode d'historien. En effet, centré autour d'un objet précis, limité en apparence, la publication du souvenir de Solferino, l'éclairage apporté par les contributions d'hier et d'aujourd'hui a prouvé à quel point les historiens qui revisitent des chapitres perçus souvent comme marginaux, ponctuels, peu susceptibles de passionner les foules des collègues, peuvent susciter des interrogations et des découvertes nouvelles et parfois d'une richesse insoupçonnée. Manifestement, ça a été le cas ces 2 journées. Je résumerai mon propos, puisque je ne pourrais pas résumer chaque intervention, autour de 4 moments ou aspects importants qui ressortent des exposés. Tout d'abord, le contexte de la guerre d'Italie, donc, où cet événement de Solferino ou Castiglione a eu lieu. Deuxièmement, le contexte intellectuel ou idéologique, voire moral, dans lequel ce texte a émergé. Enfin, le texte lui-même, qui était l'objet de plusieurs communications, à la fois son élaboration, sa traduction, sa transformation, qui ont été l'objet de très riches analyses. Enfin, la réception du souvenir, d'abord dans son environnement immédiat, nous l'avons déjà bien abordé hier, mais encore, très important, éclairage ce matin même. Et puis l'usage à long terme de cet ouvrage qu'on vient d'examiner tout à l'heure, et je m'y arrêterai sans doute moins, puisque l'assistance d'aujourd'hui aura pu suivre le détail de ces exposés. Alors sur le contexte militaire sous-jacent, nous avons eu droit d'abord à un exposé tout à fait remarquable de Jean-Jacques Langendorf, c'était jeudi soir, qui nous a valu une immersion dans le contexte des guerres d'Italie et surtout dans les armées respectives qui s'affrontaient, à la fois en prenant conscience de leurs forces, de leurs faiblesses, de leurs caractéristiques, de leurs chefs, des soldats, autant d'indications très précieuses pour comprendre la nature des combats, le sort des soldats, des victimes, des blessés. Certes, ce conflit est bien connu, ces conditions même dans lesquelles se déroulaient les combats, pour apprécier ensuite le témoignage d'un témoin, d'un touriste de passage, qui a été Henri Dunant, ont été très précieuses pour la compréhension des autres analyses. Guy Lecomte, de son côté, a donné des indications dans ses sources, tirées notamment de la revue militaire suisse, comment on peut, à partir d'une revue de ce type, à défaut d'avoir trouvé beaucoup d'autres sources, notamment les sources d'un de ses ancêtres, oui, le capitaine Lecomte, concernant les combats en Italie du Nord et l'intérêt de la Suisse à être informée sur ces événements militaires qui s'y déroulaient, ce qui a un double avantage, c'est-à-dire à la fois de montrer l'intérêt de la Suisse, mais aussi de montrer le niveau d'information auquel pouvait puiser un lecteur régulier ou curieux de, sur ces événements écrits pratiquement à chaud dans la revue militaire suisse. Guy Lecomte nous a fourni aussi des indications très précieuses sur l'accueil en Suisse des idées de Dunant, sans objet qui est traité par la suite. Et donc, de ce point de vue-là, ces indications étaient tout à fait nouvelles par rapport à ce que nous avions exploré jusqu'à présent. Si l'on veut donc apprécier la qualité du récit de Dunant sur la bataille de Solferino, il était indispensable de faire ce détour à travers les informations disponibles à l'époque dans les salons genevois ou ailleurs sur ces événements d'Italie. Alors, en plus de ce contexte militaire, qui est important par rapport au texte qu'on va examiner tout à l'heure, il y a le contexte intellectuel, voire moral, qui éclaire le propos de Dunant d'écrire le souvenir. Les données biographiques fournissent des indications sur son milieu, c'est ce que nous a fourni avec force détail notre ami Roger, sur ce milieu familial, social, et le parcours d'un jeune homme du monde, à l'aise aussi bien dans la meilleure société genevoise que parisienne, membre de très nombreuses sociétés savantes ou philanthropiques qui le mettent en contact avec des personnalités qui comptent en Europe. Mais c'est sans doute ici l'exposé de Françoise Dubosson qui, sans doute, ouvre des perspectives les plus novatrices et fécondes par rapport à l'objet limité au départ qui nous interpellait. Si l'on veut saisir, non pas les motivations, mais le propos lui-même et l'ambition de Dunant en tant qu'écrivain, en esquissant ce qui a été son univers littéraire. Elle nous a parlé de la Christomathie de Vinet, véritable incubateur, comme on dit de nos jours, d'initiative à la culture littéraire, religieuse et morale du milieu du XIXe siècle. Mais aussi les exemples de succès littéraire considérables qu'ont dû fasciner le jeune Dunant, tels que les Mystères de Paris de Gensu et la Coase de l'Oncle Tom, succès véritablement mondial. Autrement dit, Dunant a pu être titillé pour dire, pour devenir célèbre, il faut écrire un livre qui puisse atteindre les bonnes âmes. La remarque essentielle, la démonstration à mes yeux, fournie par Françoise Dubosson, pour comprendre l'inspiration divine, d'après lui, de Dunant, c'est que l'opinion européenne avait été rendue sensible à la cause des hommes, de leur misère, grâce à des écrits, livres et brochures populaires, à des publications dans les journaux, de toutes sortes de récits pour sensibiliser les lecteurs à des causes qu'on qualifierait aujourd'hui malheureuses ou perdues, les enfants malheureux, etc. Donc Dunant pouvait se lancer dans un terrain mûr pour accueillir un récit qui suscite la compassion et fait appel au sentiment de charité chrétienne. Alors, je le disais tout à l'heure, cet exposé ouvre d'énormes perspectives, puisqu'on pourrait interroger évidemment d'autres sources littéraires, non seulement dans l'espace francophone, mais dans d'autres espaces culturels, et notamment germanophones, puisque cette tendance à la compassion, au misérabilisme, était particulièrement forte dans l'Allemagne, qui est la mère du romantisme. Donc là, nous n'avons pas pu, évidemment, explorer cette veine, mais celle-ci était sans doute moins à la portée de Dunant, et Françoise Dubosson voulait montrer à quel point la vraisemblance de la lecture assidue ou non de Dunant pour ses récits qui étaient à sa portée. D'autres communications portées, et ça aussi de façon fascinante, sur le texte lui-même. Les exposés de François Bunion sur l'architecture de l'œuvre et de Bernard Delpal qui nous a proposé une analyse sur la génétique de l'œuvre ont été extrêmement riches en indications à la fois méthodologiques et quant au contenu. D'abord, la distinction de trois écritures dans un seul ouvrage. entre le récit historique sur la bataille, avec toutes les questions sur la véracité, la justesse des descriptions, sort de préambule à l'heure. Alors, ouvrage de seconde main, où on a discuté, n'est-ce pas, quelle était l'originalité de ce texte, sans doute Dunant lui-même n'avait aucune prétention à ceci, si ce n'est l'étroitesse, au fond, de l'espace qu'il a donné à ce récit par rapport à l'économie générale de l'œuvre. Enfin, la deuxième partie, où Dunant est le témoin, c'est-à-dire il raconte ce qu'il a vu. A-t-il raconté correctement ce qu'il a vu? Ça peut être l'objet d'encore d'infinies discussions par rapport, c'est des histoires de style, c'est des histoires de clichés, de formules littéraires, et là-dessus on va rentrer très rapidement dans l'exposé de Bernard Delpalle, qui s'est appesanti effectivement, heureusement, sur ces aspects-là. Quand à son rôle de témoin et d'acteur de Dunant dans ce récit, c'est la troisième partie. Et là, c'est le but de l'ouvrage. C'est le but de l'ouvrage, comment secourir les blessés? Comment apporter un peu d'humanité dans ces conflits qui génèrent tant d'horreurs si bien décrites? Toujours justement quant à ce texte, quant à sa nature, la confrontation des éditions analysées avec finesse par Bernard Delpalle, qui nous a d'ailleurs donné des indications méthodologiques précises sur la, maintenant grâce à la Bibliothèque de Genève, la mise à disposition en ligne de diverses versions du texte lui-même, ceci nous amène évidemment à apprécier effectivement que ce texte a été du temps de Dunant même vivant, c'est-à-dire qu'il a connu plusieurs éditions corrigées de sa part, supprimant des passages, corrigeant des éléments, ajoutant des indications, et in fine, une version sans notes, où il a intégré toute une série de remarques. Les questions restent ouvertes, j'en ai longuement parlé avec Bernard Delpalle, est-ce qu'on pourrait identifier les raisons de ces modifications? Était-ce à la suite de commentaires dans la presse, mais on a vu qu'elle était modeste, de revues plus spécialisées, ou peut-être plus intéressant aussi, l'examen de certaines traductions qui lui sont parvenues, qui auraient pu, effectivement, comme ça arrive à tout un praticien de texte, de dire, après, le traducteur a mieux compris ce que je voulais dire, mais je ne l'aurais pas dit nécessairement comme cela, donc modifions ce passage. Je n'en sais rien, et Bernard Delpalle, ce serait une piste intéressante à examiner sur ces modifications apportées au texte. Il a mis l'accent sur le fait qu'il a réduit de façon très intelligente des clichés trop à la mode à l'époque et qu'il avait estimé pouvoir probablement tronquer sa pensée ou la diminuer quelque peu. Donc cet exposé de Delpalle interprète évidemment les éditions successives. Pourquoi s'accroche-t-on à la première ou à la deuxième et pas à la dernière, sous contrôle de Dunant lui-même? Les traductions ont-elles été faites sur un mixte, sur une seule, en choisissant? On n'en sait rien. Il faudrait évidemment, par rapport au tableau qu'on vient de voir sur les multiples traductions, qui contrôle ces traductions dans diverses langues? On sait qu'on peut découvrir des choses assez énormes parfois sur la façon de traduire des concepts ou des idées, voire des faits très intéressants. Donc là, il y aura une tâche considérable. Enfin, la dernière partie, dernière de ces communications, c'est la réception du texte lui-même. Alors, on en a vu des éléments tout à l'heure, ça permettra d'aller peut-être plus vite, mais on a examiné ça déjà hier, c'est-à-dire la réception dans l'immédiat, dès 1863, de cet ouvrage, et au fond, tout cela suscite aussi pas mal de questions pour l'historien. Nous avons eu droit à des exposés sur l'accueil fait en France, mais aussi de façon très limitée par rapport à toutes les possibilités. Était-ce l'accueil par l'élite, l'accueil par la littérature spécialisée, les revues spécialisées, l'accueil par la presse, la grande presse, était-ce momentané? Il y aura encore beaucoup de choses à affiner par rapport à ces exposés, idem pour la Belgique, l'Allemagne, assez complexe, puisqu'il y a là plusieurs sociétés et plusieurs groupes qui accueillent cette idée, plusieurs cours, comme on dit à l'époque, plusieurs États concernés par cette problématique. Le cas de l'Italie, qui nous a paru aussi très, très intéressant et original, mais nous n'avons pas eu le loisir, nous n'avons pas non plus trouvé de fantassins pour explorer le cas d'autres pays, notamment de la Russie, et puis on l'a vu, en complément à l'exposé de notre ami sur l'Angleterre, à quel point c'est complexe le cas anglais, mais finalement nous avons dû faire l'impasse sur le cas américain et le cas des Pays-Bas qui a été examiné, qui suscite aussi des questions très intéressantes. Enfin, l'étude pourrait être poussée beaucoup plus loin dans la manière d'aborder les choses. Est-ce que ces traductions, parfois comme on le fait maintenant, tendance à partir d'une autre langue dominante, comme on traduit maintenant beaucoup d'œuvres importantes d'origine française à partir de la traduction anglaise dans d'autres langues, et ainsi de suite, je pose la question qui mériterait d'être examinée quant à l'utilisation, évidemment, de cet ouvrage jusqu'à l'actualité. Donc la réception ou l'usage du souvenir dans le long terme, ce sont les exposés de ce samedi, toujours tous très intéressants, stimulants, vous les avez entendus, et m'interpelle aussi en tant qu'historien à quel point, là encore, l'étude de la presse sur la longue durée est un chantier, enfin je ne veux pas revenir, nous avons assez discuté avec Reto Molico, mais c'était bon de lancer ce chantier, car souvent il faut démontrer que certaines hypothèses ne peuvent pas aboutir, mais qu'il faut changer l'hypothèse, et on peut prendre la grande presse, et puis ça ne donne pas grand-chose, ce qui nous permet, nous, de rectifier historiquement l'image que l'on peut, qu'on a trop souvent donnée, c'était relevé déjà tout à l'heure, en disant, après, Henri Dunant était un bon manipulateur de la presse un peu avant l'heure, il avait ses contacts avec les médias de l'époque, et in fine, on découvre qu'apparemment la presse l'ignorait, à part le moment très précis en France où il y aurait eu effectivement là une majeure. Alors, était-ce aussi à la suite des malheurs qui lui sont arrivés, et que le comité, secrètement, quelques-uns de ses membres ayant aussi de grands réseaux, auraient pu dissuader, évidemment, certaines rédactions à revenir sur ce texte dont on ne voulait plus entendre parler, on l'a entendu tout à l'heure. Alors, là, il y a des hypothèses qui pourraient être, le cas échéant, vérifiées pour mesurer cette affaire qui n'est pas clair. En revanche, ce qui est clair, c'est que la manipulation de la presse par ce monsieur du Monde, comme on l'a dit tout à l'heure, qui avait de bonnes relations, en fait, n'a pas véritablement fonctionné. Et on revient en réalité à examiner, mais il faudrait le faire de façon beaucoup plus détaillée, ce qu'a fait pour la revue militaire suisse Guy Lecomte, ce qu'on a vu pour le bulletin de la Croix-Rouge, dans le dernier exposé, qui est devenu la ressource finalement, et on pourrait s'imaginer dans toutes les publications des Croix-Rouges nationales, est-ce que là, il n'y a pas eu, au contraire, des utilisés, y compris la Croix-Rouge suisse, je crois me souvenir en tant qu'enfant, dans tout ce qu'on recevait dans les foyers, il y avait des extraits de Solferino, et je pense que les Croix-Rouges nationales, de ce point de vue-là, ont joué un rôle très important sur la diffusion, non pas du livre en tant que tel, mais au moins des extraits, et l'essentiel, c'est-à-dire le message, dans le but exactement le même que celui de Dunant, d'émouvoir les foules, pour qu'effectivement on donne son obol. C'est le but de l'opération. Donc là, l'étude de ce réseau Croix-Rouge mériterait d'être beaucoup mieux exploitée, mais comme on a déjà des idées, évidemment, pour l'année prochaine, c'est quelque chose qui sera totalement justifié. De même pour la période plus récente, il est clair qu'il faudrait examiner de plus près, on avait l'hypothèse de le faire, on n'a pas trouvé là non plus de volontaire, sur le rôle de la Ligue dans la diffusion du souvenir de Solferino, dans ses publications, dans ses brochures, etc. Et ça, nous n'avons, personnellement, je n'ai aucun élément à vous fournir, nous n'en avons pas parlé dans le cadre de ce colloque, donc là, avis aux amateurs. Donc, in fine, ce colloque a suscité d'abord quelques découvertes, pas trop de redites,
je dois dire par rapport à ce que nous avions exposé il y a 2 ans, ouvre des perspectives nouvelles et je pense légitime tout à fait le propos que nous avions de non pas de commémorer par une simple plaque, ce qui a été fait, on aurait pu s'en contenter, mais par une véritable manifestation scientifique dont les actes de ces communications mériteront évidemment d'être publiés, ne serait-ce que pour pouvoir susciter encore d'autres enquêtes, d'autres recherches. Et disons, mon intérêt d'historien montre que j'étais très heureux d'être associé à cette aventure qui, au départ, aurait pu se limiter évidemment à une manifestation publique, mais qui s'est fort heureusement développée en un colloque scientifique où, manifestement, on a pu accueillir quand même un public intéressé, nombreux, assidu, bien davantage que l'on peut la fois l'avoir dans l'enceinte universitaire. Alors voilà, ça aura été trop long, mon cher ami.
Merci beaucoup encore. Merci beaucoup Antoine et bravo pour la façon dont tu as réussi à faire la synthèse d'un jour et demi de débat. On peut compter 2 jours, 2 jours de débat très intense avec beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges d'informations, beaucoup de discussions. Est-ce qu'il y a un besoin de clarification, une question par rapport à cette synthèse ? Non. Alors, d'abord, une ou deux informations. Premièrement, cet après-midi, débutant à 14h30, dans cette salle, nous avons le grand privilège d'avoir une table ronde, cette fois sur l'actualité, dans le sens le problème du témoignage et de l'action humanitaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que finalement, toute cette relecture du souvenir de Solferino qu'on a faite pendant ces 2 jours a mis l'accent sur la force du témoignage, la relation entre l'action de Dunant à Castiglione et son témoignage, et puis ensuite son témoignage comme instrument pour la poursuite de l'action, la fondation de la Croix-Rouge et l'adoption de la première convention de Genève. Et nous voulons réexaminer maintenant ce problème à la lumière des préoccupations contemporaines. Comment concilier le témoignage et l'action sur le terrain, notamment bien sûr dans des contextes de conflits armés, sous l'autorité, sous la présidence de Monsieur Dominique von Bourg, président du Conseil suisse de la presse. Nous aurons donc Madame Marie-Luce Desgrandchamps, qui était là ce matin, mais maintenant je ne la vois plus, qui est historienne, mais elle est très discrète. Historienne et spécialiste elle va terminer une thèse de doctorat sur la guerre du Nigeria-Biafra. Et vous savez que pour les humanitaires, et notamment pour le CICR, cette question du témoignage s'est posée de façon extrêmement crue, dans ce conflit-là en particulier. Nous aurons Madame Thérèse Obrecht, journaliste bien connue, et présidente de Reporters sans frontières suisses. Nous aurons Madame Doris Schopper, ancienne présidente de Médecins sans frontières suisse et professeure à la faculté de médecine, et M. Yves Dacor, directeur général du CICR. Donc, 14h30, témoignage et action humanitaire aujourd'hui. Et puis, en ce qui concerne les repas, je crois que c'est la même chose que hier, c'est-à-dire chacun sait, les conférenciers ont reçu des coupons d'invitation, mais là, la société Dunant-Moignier, la société Henri Dunant, ce colloque étant gratuit, ne pouvait pas également financer le repas des autres participants. Cela dit, il y a suffisamment de restaurants ici autour dans la vieille ville. Il me reste, avant de conclure, à remercier très chaleureusement tous les conférenciers pour la préparation, les préparatifs qu'ils ont faits, les recherches qu'ils ont conduites en vue de ce colloque. Je rappelle que nous souhaitons recevoir dans les meilleurs délais des contributions écrites, parce que l'objectif est de publier les actes de ce colloque, d'avoir, comme pour les colloques précédents, Henri Dunant, Gustave Adore, quelque chose qui reste, qui soit un instrument de référence et de recherche pour l'avenir. Et puis, je remercie le public pour votre participation, votre attention et vos interventions. Bon appétit et à tout à l'heure, 14h30 ici.